Bonjour, je m'appelle Johanna et si j'étais une intelligence artificielle, ma première mission, ça serait d'éradiquer les EVJF. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu ferais ?
Bonjour, moi c'est Justine. Si j'étais une intelligence artificielle, je pense que je percerais un des mystères de l'univers, genre voilà, la relativité, les trous noirs, qu'on soit fixé une bonne fois pour toutes,
on sache.
Bienvenue dans le podcast Lectus. Aujourd'hui, on parle de la trilogie de la Faucheuse de l'auteur Neil Schusterman. Donc ça introduit un peu la saison 1, qui va être plutôt axée autour de la fantasy. Et c'est parti pour ce premier épisode. De quoi on va parler du coup aujourd'hui ?
Alors, le résumé rapide du coup du premier tome de la Faucheuse. Donc on est au milieu du troisième millénaire en Mid-Amérique. Et on découvre un monde où la maladie et plus largement la mort a été totalement éradiquée grâce à une intelligence artificielle qui s'appelle le Thunderhead. Et les gens ne mourant plus, il a bien fallu trouver une solution pour réguler la population. Et donc est apparu l'ordre des faucheurs. Et donc dans ce premier livre, on va suivre deux apprentis faucheurs, Citra et Rowan, qui vont devoir faire face aux défis qu'exige cette profession.
Bien, le tome 1 de La Faucheuse il s'ouvre sur une scène qui nous a marqué toutes les deux, la scène d'ouverture qu'on avait chacune un peu sélectionnée en scène marquante de ce bouquin.
Ouais.
Ce chapitre il commence par une phrase, je vous la cite. Le faucheur se présenta à leur porte par une fin d'après-midi de novembre.
Ça met dans l'ambiance.
Direct. Toc, toc, toc.
Qui est là ?
Donc, oui, dans cette première scène, donc on a un faucheur qui arrive dans une famille. Une famille, donc on rencontre le personnage principal, un des personnages principaux de l'histoire, Citra. Qui va accueillir Maître Faraday. On développera un peu plus tard sur qui c'est exactement. Et dans cette première scène, on sent vraiment une tension, parce qu'on sait déjà que c'est un faucheur, a priori, il n'est pas là pour faire rigoler des gens.
Non.
Et on ne sait pas, est-ce qu'il est venu là pour eux, pour le petit frère, pour Citra, pour ses parents. La question vraiment reste en suspens. Citra, tout de suite, elle rentre en opposition avec lui. Elle lui laisse pas vraiment la place. Et lui, ça le fait un peu rire. il rentre dans son jeu en essayant de la provoquer.
Ouais, parce qu'on comprend que les faucheurs, il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'opposent à eux, de par leur statut et parce que la plupart des gens ont peur de se faire glaner. Donc c'est vrai que Maître Faraday a l'air un petit peu intrigué par cette jeune fille qui finalement ne veut pas vraiment... laisser sa place et que quelqu'un de sa famille soit fauché, même si on ne sait pas du coup qui va être fauché. Parce qu'au final, petit twist, personne de la famille n'est fauché.
Non, finalement, il emprunte juste le couteau
dans la cuisine.
Voilà, pour aller dégommer la voisine.
Voilà. Donc c'était vraiment le petit coup de stress inutile, quoi. Donc c'est vrai que cette scène, moi, je l'ai bien aimée aussi. Elle introduit bien les caractéristiques de Citra. Voilà, qui est un personnage qui est quand même assez fort, forte personnalité, qui est assez tenace dans ses idées, qui a quand même un sens aigu de la justice. Et justement, là, elle trouve que les faucheurs, c'est un métier, une profession qui est... Elle comprend pas, en fait, pourquoi il y a des faucheurs, quoi. Pour elle, ça la rebute comme pas possible. Et c'est un peu le cas aussi pour le deuxième personnage principal, qui est Rowan Damish.
Oui.
Voilà, qu'on rencontre dès le chapitre 2, en fait.
Oui, pareil, en fait, la même confrontation avec Maître Faraday. Maître Faraday, donc oui, même confrontation, chapitre 2. Donc là, on retrouve Rowan à l'école. Il se fait un peu bully par les sportifs du lycée. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve un peu dans la littérature américaine, jeunesse actuellement. Et en fait, il va tout simplement accompagner ces élèves-là.
Ouais, le camarade que en fait, Maître Faraday vient glaner.
Donc il a choisi. Donc il va l'accompagner à travers ce processus. Voilà, il veut pas... c'est pas vraiment pour... Est-ce que c'est de la curiosité? Est-ce que c'est de l'empathie?
Ouais, je pense que si, parce qu'en fait, on décrit tout de suite Rohan comme quelqu'un très. de très empathique. Et du coup, même si cet élève, il le porte pas dans son cœur, que clairement, on comprend que voilà, il a un peu harcelé à l'école, il veut pas le laisser tout seul dans cette épreuve. Parce que, en fait, Maître Faraday ne lui laisse pas le temps d'appeler sa famille pour se faire accompagner. Donc, Rohan, il se dit, bon, bah, ok, même si je ne le porte pas dans mon cœur, moi aussi, j'aimerais que quelqu'un soit là pour moi si je me faisais glaner. Et du coup, il va accompagner l'élève qui va se faire taser, je crois.
Oui, effectivement, il va l'accompagner jusqu'au bout du bout. Effectivement, il va aller même jusqu'à lui tenir la main au moment où, effectivement, Maître Faraday choisit... la manière dont il va tuer cet élève-là. Mm. Donc une grosse châtaigne.
Le pauvre Juan, il est pas en pleine forme. C'est mais pareil, du coup, il a fait une forte impression de ce qu'on comprend à Maître Faraday. Voilà, parce que généralement, quand il y a un faucheur dans les parages, les gens s'éloignent. Parce que du coup, ça, on le comprend au fil du livre, mais... Soit les gens en fait se cachent, donc c'est-à-dire essaient de ne pas être dans le champ de vision d'un faucheur. Si jamais ils décident de les faucher, on ne sait pas. Il y a des gens qui vont plus être dans tout ce qui est... ils vont être mielleux. Dans le sens, je voudrais des faveurs.
Oui, on va essayer de négocier.
Ça, ils vont être là, vous êtes si beau, etc.
Oui, d'où un peu les cadeaux. On sent vraiment que... les faucheurs, on leur accorde beaucoup de privilèges.
Ouais.
Mais c'est pas vraiment par leur statut, c'est plutôt parce que les gens, d'eux-mêmes, vont leur donner des choses, leur faire des priority pass événements. Ils ont quand même une stature plutôt qu'un statut.
Ils payent rien, ça on nous le dit dans le livre. En fait, on leur donne... ils payent pas leurs courses. Ils payent pas leurs vêtements. S'ils veulent accéder à, je sais pas, une voiture ou qu'ils ont besoin d'un service, en fait, ils ont accès littéralement à tout. Parce que les gens ont trop peur, en fait, de se faire glaner. Donc, c'est un peu c'est les petits dieux, quoi.
C'est ça.
Voilà.
Ce qui, dans l'univers du bouquin, est un peu contradictoire avec l'ordre établi par, justement, le Thunderhead, l'intelligence artificielle qui chapeaute un peu la société. Puisque on nous dit que c'est une société où tout le monde vit sous un pied d'égalité, tout le monde a un salaire commun, tout le monde a accès aux mêmes commodités, l'école, la santé, les emplois. Voilà, c'est vraiment un univers que certains jugeront idéal.
Oui, disons que là, pour une fois, c'est l'intelligence artificielle qui est vraiment au service du public. On va dire de l'humanité, et c'est pas dans le sens où elle va désinguer des personnes, elle est vraiment là pour aider. Donc, petit passage du chat. Mais oui, du coup, c'est vrai que c'est... Voilà, le Thunderhead, on le dit très tôt dans le livre, quand il a été créé, en fait, quand il a eu sa propre conscience, il a choisi en fait de ne pas s'occuper de la mort des personnes parce qu'il juge qu'il faut être un humain et avoir des sentiments humains pour du coup s'occuper de ce genre de besogne, on va dire. Donc l'intelligence artificielle qui régit la totalité de l'humanité, elle ne s'occupe pas des affaires des faucheurs. Donc ça va être important pour la suite.
Il y a vraiment deux mondes séparés, oui.
Voilà, elle peut pas intervenir dans les affaires des faucheurs, alors que, voilà, n'importe qui peut contacter le Thunderhead pour, si on a des questions. C'est vraiment écrire comme un copilote ou lui parler.
C'est vrai.
En plus, il est omniscient. Donc, vraiment.
Ouais. C'est pour ça qu'on parle, par rapport à ce livre-là, d'un roman d'anticipation. C'est vraiment, on pose des questions... très actuel, très moderne, même à l'époque. Bon, ça fait pas si longtemps qu'il est paru, le livre 2016-2017, je crois, pour le premier tome.
Ouais, c'est ça.
Mais oui, effectivement, il y a un peu des réflexions sur la nouvelle technologie poussée à l'extrême. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Un peu une réflexion en essayant de se projeter dans le futur. Voilà un peu pour le cadre. C'est vrai que ces deux premiers chapitres permettent d'introduire les deux personnages principaux de l'histoire, le statut du faucheur. C'est vrai que même au niveau, on parle, on arrive à comprendre un peu quelles sont les règles de la société, mais visuellement aussi le faucheur, on se l'imagine très bien.
Oui, on se l'imagine bien parce qu'il est bien décrit. Déjà, on comprend qu'ils ont tous des noms, en fait, qui se sont choisis le jour où ils ont été ordonnés faucheurs. Et surtout, ils ont chacun des robes, parce qu'en fait, le faucheur a un habit qui lui est propre, un uniforme, donc c'est littéralement une grande cape. Mmh. Et donc là, chacun va avoir sa couleur, la forme, enfin voilà. Donc ça... on le verra un petit peu plus tard, parce que là pour l'instant au début on est vraiment concentré sur Maître Faraday et surtout sur l'intrigue qui va arriver après, qui est que Rohan et Citra vont avoir une proposition pour devenir tous les deux apprentis de Maître Faraday.
Et oui, parce que l'intrigue elle tourne autour d'un récit initiatique, on suit vraiment l'apprentissage de ces deux personnages. Donc ils ont été choisis chacun pour une qualité en particulier. Citra, plutôt son esprit de justice. Rohan, plutôt son empathie. Et donc Maître Faraday va leur proposer de devenir ses apprentis. Mmh. Ils vont mettre un petit temps de réflexion quand même, parce que ouais, c'est pas une décision anodine.
Oui, tu vas pas vendre des pizzas ou tu vas pas au McDo, quoi. Donc ça pose forcément des questions. Et c'est vrai que, je sais pas, moi demain on me propose d'être faucheuse. Je sais pas si je dis oui. Mmh. Enfin, ça pose quand même des questions de morale. Oui. Il faut être capable... Bon, après, voilà, ils vont être formés pour aussi, mais est-ce que, t'es capable de tuer quelqu'un qui, sur le papier, souvent, la plupart du temps, a l'air... Et puis, est très bien, et surtout, est immortel.
Parce que, aussi.
Ça, je sais pas si on l'a précisé, du coup, mais si, on l'a dit dans le résumé, la mort n'existe plus, donc c'est pour ça qu'ils sont là.
Ouais. Que ce soit par maladie, accident... voilà, c'est pas possibilité de mourir à part la main d'un faucheur, parce qu'il y a des centres de résurrection qui te ramènent soit à l'état avant ta mort, soit à un état plus jeune de toi.
Voilà, donc en fait il y a des personnes sur Terre qui littéralement ont 400 ans, parce qu'elles n'ont jamais été fauchées et que du coup elles se sont réinitialisées par exemple à leurs 30 ou 40 ans. Donc ça aussi, moi j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était intéressant de se dire, oui effectivement demain si je peux plus mourir, comment est-ce que tu occupes toute ta longévité sans faille? Donc là, après, il y a quand même l'intelligence artificielle qui s'occupe de pas mal de points.
Oui.
Mais oui.
C'est quelque chose qui est récurrent comme question dans le livre. Quel sens tu donnes à ta vie? Et par rapport aux personnages, quelle valeur tu donnes aussi à ta famille? Parce qu'on voit, autant Citra est très proche de sa famille, autant Rohan... a priori, pas trop.
Non, parce que de ce qu'on comprend, sa mère s'est déjà fait réinitialiser plusieurs fois. Et du coup, il a beaucoup de frères et sœurs. Ce qui fait qu'en gros, lui, il n'a pas une famille qui est très présente pour lui. Donc, lui, il n'est pas très attaché à sa famille. C'est aussi un des points qui fait que finalement, il va accepter de devenir l'apprenti de Maître Faraday. Citra, elle va plus accepter parce que il y a le côté où en fait Maître Faraday donc leur propose du coup de devenir ses apprentis et en échange ils donnent l'immunité à leurs familles respectives en sachant que les faucheurs donc en plus de la cape ils ont une bague,
la bagouze
tout à fait, et dans cette bague en fait elle enregistre l'ADN de la personne. Et ça fait que les parents de Citra, son frère et toute la famille de Rohan, qui est très étendue visiblement, est épargnée de fauchage pendant un an.
C'est ça.
Donc ça pèse aussi dans la balance qui fait qu'au final ils disent oui tous les deux.
C'est ça. Donc ils vont accepter de rentrer au service de Maître Faraday. Donc ils vont quitter famille, amis et compagnie pour le rejoindre dans sa maison qui est très austère. Il vit vraiment une vie de moine.
Ouais, tout à fait. Là, c'est l'ambiance monacale parce que du coup, on comprend très vite que Maître Faraday, il est très à cheval sur les principes qui régissent l'ordre des faucheurs. On en apprend plus aussi sur sa façon de choisir ses victimes.
Tout à fait.
Il se base en fait sur des critères de l'ancien temps, entre guillemets, c'est-à-dire notre époque, si on peut dire, avec des
statistiques.
Ouais, c'est ça, des statistiques en disant, là, du coup, c'est plutôt des jeunes qui meurent dans des accidents de voiture, etc. y a un taux de temps dans tel quartier, du coup après il choisit une personne quoi.
Ça fait partie aussi, il y a un certain nombre de règles qui entourent la profession des faucheurs. Il y en a 10 en tout.
Ouais.
Et donc
7.
Ah, 7
bah, je crois que c'est 7.
Je sais plus. 7 ou 10, je sais plus. Mais en tout cas, l'une des règles, c'est que ben, on ne doit pas discriminer une population plutôt qu'une autre.
Ouais.
Quand on,
pas de critères,
quand on réalise un fauchage.
Ouais, pas de critères spécifiques. Mmh.
D'où les statistiques, voilà, des données très formelles, objectives.
Oui, c'est factuel.
Ouais, tout à fait. Donc ils vont débuter leur apprentissage, ils vont accompagner Maître Faraday. L'une de leurs premières missions, ça va être de déterminer des profils à glaner.
Ouais, tout à fait. Après, au-delà de ça, ils vont aussi avoir toute une formation sur l'utilisation des poisons. Ouais. Ils vont s'entraîner au bokator, qui est en fait un art martial qui est propre à l'ordre des faucheurs. Donc c'est du combat corps à corps.
Mmh.
Donc ça, ils en font pratiquement tous les jours. Et il y a aussi une partie qui est hyper intéressante, qui moi m'a beaucoup plu dans ce premier livre, c'est les journaux des faucheurs.
Oui. Qui doivent rédiger pratiquement au jour le jour, c'est une de leurs tâches.
C'est leur mémoire.
Oui, c'est ça. Mmh. Donc chaque faucheur tient un journal, un peu où il livre ses états d'âme. Donc ils apprennent, Citra et Rouen aussi. C'est plus difficile pour Citra, d'ailleurs, de s'y mettre, d'écrire... chaque jour de décrire, elle voit pas vraiment l'utilité au départ, je crois.
Oui, elle comprend pas, et c'est vrai que en fait avant chaque chapitre il y a quasiment toujours un petit prélude en fait avec des extraits de journaux d'anciens faucheurs.
Oui, au niveau de la structure du récit,
chaque chapitre
est coupé.
Voilà,
on retrouve,
avec des mémoires du coup de faucheurs, et c'est vrai que ça permet aussi de mieux comprendre l'importance du métier. Quelles questions de morale, aussi, ils ont eu au final.
Les tiraillements.
C'est ça, comment tu fais pour choisir plutôt Paul ou plutôt Pierre, tu vois. Il y a beaucoup de trucs qui reviennent. Et sur l'éthique, comment garder son éthique. Parce que ça, c'est aussi dit... ça, c'est un des principes phares de Maître Faraday. Il dit, et c'est aussi pour ça qu'il les a choisis comme apprentis, il ne faut pas prendre plaisir à tuer. Ouais. Chose que visiblement on a un des personnages phares du livre prend à contre-pied, qui est le fameux Maître Godard.
Et oui, parce que qui dit apprendre à être faucheur dit aussi être intégré à la communauté des faucheurs. Donc très vite ils vont se retrouver à devoir être présentés à cette communauté et à passer des épreuves. Donc lors du premier conclave des faucheurs, donc Maître Faraday va les présenter à l'assemblée. Déjà, y en a certains qui tiquent, parce que d'habitude, on ne prend pas plusieurs apprentis, on n'en prend qu'un seul.
Mm.
Et arrive la première étape de leur apprentissage. Donc, c'est Dame Curie, un autre personnage important qui délivre la première épreuve. Elle leur demande quelle est la chose la plus terrible que vous ayez faite dans votre vie.
Voilà, et du coup, Citra, visiblement, ment ostensiblement. Mm-hmm. Et Rouen, qui a toujours à cœur de... En fait, lui, dès le départ, et ça, c'est dit dans le livre très clairement, il veut pas devenir faucheur, il veut que ce soit Citra qui gagne. Du coup, il fait exprès de mal répondre.
Mm.
Donc, ils échouent tous les deux à cette première épreuve. Ce qui a pour conséquence, malheureusement, d'attirer l'attention de Dame Rand, qui est, on va dire, une collègue proche.
Le bras droit de Godard.
De Maître Godard. D'ailleurs, on ne l'a pas expliqué, mais Maître Godard, en fait, c'est un autre faucheur qui, c'est vraiment le côté sombre de Maître Faraday.
Ouais.
C'est l'opposé. Lui, il est à fond pour les glanages. En fait, sa méthode de glanage, c'est les glanages collectifs. D'ailleurs, il est présenté dans le livre, le chapitre qui l'introduit, il fait le glanage de tout un avion, donc à peu plus de 300 personnes.
Mmh.
Et surtout, c'est des glanages qui sont très violents.
Oui.
Il est très versé sur, je découpe des gens, je les brûle, etc. Enfin bref, t'as pas envie de te faire glaner par lui,
non,
clairement.
C'est un peu l'antagoniste originel.
Mmh. Voilà.
On comprend vite que les faucheurs, ils sont divisés entre deux clans, l'arrière-garde et l'avant-garde.
Mmh.
L'avant-garde étant la violence, bizarrement.
Tout à fait.
Et l'arrière-garde étant plutôt, on va dire, le côté tradit, mais bizarrement, peut-être plus moral aussi.
Et oui. Donc, du coup, Dame Rand s'aperçoit en fait qu'il y a une espèce de connivence entre Rohan et Citra. Et en fait, elle propose du coup à l'Assemblée, et notamment au chef de l'Assemblée qui est Xénocrate, qui
La
est en
serpe
fait
suprême.
voilà, la serpe suprême de Midamérique. Donc c'est voilà, président en gros des faucheurs en Midamérique. Et en fait, elle va proposer que à l'issue de l'apprentissage, donc de l'année d'apprentissage de Citra et Rowan, celui qui échoue en fait à devenir faucheur soit glané par l'autre. Donc ambiance. Ambiance pour les deux, parce que du coup, enfin voilà,
Coup dur.
Ah bah là, ouais, c'est. Là, tu te dis, oulala! Ouais, donc déjà qu'ils étaient pas. Enfin, le pire, je pense, c'est quand même pour Rohan. On sent que lui, il est vraiment. Il est là, ouais, mais. Du coup, là, maintenant, je vais devoir crever, quoi. Enfin, lui, il est au bout de sa vie, clairement. Enfin, bientôt même. Et au final, Maître Faraday a pas l'air tant surpris par la proposition. Parce que lui, on comprend que ça fait longtemps qu'il navigue dans les eaux
Oui, s'y
du
attendait.
conclave. Donc, ça ne l'étonne pas. Mais d'un côté, il a pas de proposition pour
Pour contrer,
non.
pas tout de suite en tout cas.
Ouais, non. Vraiment, ils sortent, ils sont démunis les uns comme les autres, ils savent pas quoi faire. Donc ils repartent.
Enfin, ils repartent chez Maître Faraday. Mais bon, finalement, quelques jours, quelques semaines se passent, et puis même Maître Faraday, il arrive quand même avec un plan en tête.
Eh ben, un plan en fait, non, pas vraiment, parce que du coup,
Enfin.
bah si, il met son plan à exécution, parce que lui, de son côté, on comprend après qu'il a réfléchi à une solution qui est, donc il y a un commandement des faucheurs qui est le dernier, qui est que si un faucheur veut mettre fin à sa vie, bah il doit s'auto-glaner. Et donc, Maître Faraday, pour sauver Citra et Rohan, bah, en fait, a décidé de s'auto-glaner. Et en fait, Citra et Rohan sont réveillés en pleine nuit dans la maison de Maître Faraday, parce que du coup, la police, entre guillemets, des faucheurs, vient leur annoncer que Maître Faraday s'est auto-glané.
Tout à fait.
Donc, ils comprennent que c'est pour les libérer, en fait, de leur apprentissage. Et que comme ça, ni l'un ni l'autre n'est à se glaner. Mais c'est sans compter sur bah, l'ordre des faucheurs et notamment sur Xénocrate. Xénocrate qui finalement va leur attribuer à chacun un nouveau mentor.
Un nouveau mentor, effectivement. Et donc là, c'est un peu la séparation entre les deux apprentis. Donc on a d'un côté Citra qui va rejoindre Dame Curie pour son apprentissage, et Rohan, vous l'aurez deviné, il va se retrouver avec Maître
Maître Godard.
Godard.
Ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, bah, il y a, enfin, Citra et Rohan sont vraiment dégoûtés que Maître Faraday se soit entre guillemets sacrifié pour rien, parce que du coup, ça n'a pas marché sa solution, qui somme toute était plutôt bonne. Moi, j'avoue que je m'y attendais pas dans le livre.
Pas du tout, oui, effectivement.
Je pensais qu'à la fin, ils auraient trouvé un truc.
Oui.
Enfin
Quoique ça
voilà.
mettrait peut-être plus de temps à la limite.
Ouais.
Mais oui, c'est quelque chose de très. Ça intervient à peu près au milieu du récit. Et puis, ah ouais, mais du coup, ils sont censés être en apprentissage. Qu'est-ce qui va arriver de quoi?
Ben, c'est ça. Bon, bah au final, mais Xénocrate leur
Bon,
a
c'est
bien
très vite,
trouvé,
mais bon.
voilà. Mais donc, effectivement, là, il y a une vraie. Enfin, oui, ils se séparent, comme t'as dit, Citra et Rohan. Donc d'ailleurs, c'était un peu introduit. Bon, on a compris, hein, Citra et Rohan, ils s'aiment un peu.
Oui, c'est. Mais franchement, la romance prend pas du tout le
Non,
pas sur l'histoire.
non,
C'est
ça la
plutôt.
sert bien.
Ouais, c'est plutôt bien maîtrisé.
Et c'est pas prépondérant à
Non.
l'histoire, à l'intrigue et à tout ce qui se passe. Donc moi j'ai bien aimé, bien que grande fan de la romance. Mais j'ai trouvé que là c'était bien dosé
Oui.
dans l'écriture. Donc au final on va suivre bah, l'apprentissage de chacun en fait avec leur nouveau mentor.
Tout à fait.
Donc bah, pour le coup, Rohan, lui, sa première prise en main par Godard, ça va être un peu sévère, un peu
Oui.
violent, parce que je sais pas si tu te souviens, mais du coup dans le livre, donc Maître Godard a subtilisé la maison d'un riche monsieur pour en faire ses quartiers, et comme bien sûr on vous l'a dit au début, on refuse rien à des faucheurs. Donc voilà, il est propriétaire entre guillemets maintenant de la maison. Donc c'est devenu son QG, du coup il y a vraiment, c'est la fête à foison, enfin voilà. Et pour la première soirée qui va passer, ben, en fait Maître Godard décide de tabasser Rohan, en désactivant les nanites. Et qu'est-ce que sont les nanites?
Ben, les nanites, c'est ce qu'ils, justement, ils ont dans le sang, la nanotechnologie qui leur permet de rajeunir leurs cellules et de se guérir.
Voilà, donc en fait, on comprend que les nanites peuvent être réglées plus ou moins fort pour ressentir la douleur. Et Maître Godard étant un grand fan de la douleur, il les désactive en fait vraiment au plus bas pour que Roanne découvre ce que c'est la vraie douleur,
oui.
La douleur d'avant en fait, quand les humains n'étaient que des humains finalement. Et donc on a ce côté très violent de voilà Roanne qui passe d'un mentor qui était sévère mais juste, ouais, voilà, donc bah, là il passe à quelqu'un vraiment, bah, c'est un monstre quoi. Et du côté de Citra, elle devient...
Oui, bah, du coup, c'est la rencontre avec Dame Curie, je crois que c'est un de mes persos préférés.
C'est vrai qu'elle est,
de l'histoire.
Elle est bien.
Elle, c'est une des plus anciennes faucheuses en activité. On apprend qu'elle était là quasiment au début de l'ère de l'IA.
Bah, de la création, ouais.
Qu'elle était là vraiment au départ, donc elle a vu pas mal de choses, elle est passée par différentes phases. D'ailleurs, c'est des extraits de ses journaux qu'on lit au travers justement de ces entre les chapitres, des courtes pauses entre les chapitres. Elle, sa méthode de glanage, elle est basée un peu sur la surprise, c'est-à-dire que elle a pas de statistiques, elle fait pas de recherche, elle a pas de méthode d'outils particuliers.
Non.
Elle dit quand même qu'elle repère dans le regard des gens une espèce de nostalgie.
Oui, bah en fait quand t'as vécu 150 ans, je pense qu'au bout d'un moment t'es là, bon bah peut-être que en fait mettez fin à les jours s'il
justement,
vous plaît. Quoi.
Voilà, rapport au sens de la vie, tu vois, de l'intérêt que tu lui portes et tout ça. Et en fait elle les surprend juste en public.
Ouais.
En les, je crois avec un coup. Enfin, en tout cas la scène qu'elle décrit, c'est elle les plante avec un couteau.
Oui, majoritairement, elle y
je
va,
crois que c'est ça, ouais.
Elle y va bien franco. Hein. Donc,
c'est vrai.
Mais c'est rapide. Mais par contre, après, elle fait à manger à toute la famille.
Oui, c'est ça, son petit péché.
Voilà, c'est
son petit péché mignon.
Pour se repentir, elle te fait un bœuf bourguignon, voilà. C'est super. Bon, ta mère est morte,
mais voilà. Un petit bisou à la bague et tout va bien.
Oui, c'est vrai, parce
que pardonné.
Oui, on l'a pas précisé, mais du coup, quand une personne est glanée, sa famille obtient...
Voilà,
automatiquement
d'immunité
en petit lot de consolation.
C'est ça.
Donc voilà, du coup
Roanne de son côté, on l'a dit, passage à tabac, et puis au niveau de son apprentissage, il assiste Maître Godard et ses apprentis, non, j'allais dire, et ses bras droits. Il participe au glanage collectif.
Ouais.
Alors, il essaie plus ou moins de sauver des gens.
Oui, bah lui toujours dans son optique de bon voilà, je veux pas être non plus un super connard, donc j'essaie de sauver des gens, notamment quand il fait le glanage dans l'immeuble.
Oui.
Il fait sortir des gens en les prévenant en fait, en descendant dans les étages.
Il s'entraîne aussi sur des noceurs professionnels, des invités de Godard.
Bah ouais, en fait c'est des... le but de Godard, et ça on le comprend très vite, c'est que Roanne devienne une vraie machine à tuer.
Oui.
Et surtout, le but ultime, c'est qu'il prenne goût en fait, à tuer des gens. Ce qui va poser, pareil, un problème moral à Roanne qui,
au fil des mois...
Il va commencer à être là,
se poser des questions. Oui, c'est vrai.
C'est pas mal de trancher des gorges et tout.
Mais donc, quand même, c'est un des points aussi que j'ai préféré par rapport au bouquin, au traitement des personnages, même s'il y a des questions qui viennent un peu, polluer son esprit, je trouve que ça reste des personnages. Il y a une vérité qui a été énoncée au début du bouquin sur leur qualité, la justice, l'empathie. Et tout au long de l'histoire, ils vont rester fidèles à ce qu'ils sont. Il n'y a pas, comme il peut y avoir dans certains bouquins...
Des retournements de veste.
Oui, voilà, des « Oh mon Dieu, je me questionne, oh mon Dieu, finalement... »
En plus,
qui suis-je ?
Oui, voilà, mais en plus, là, c'est des questions qui sont quand même vachement légitimes par rapport à l'activité qu'ils font.
Là, oui.
Donc, j'ai trouvé que c'était bien tourné aussi. Et d'ailleurs, le fait qu'ils aient des questions et qu'ils ne se voient plus autant, même Citra, en fait, elle va commencer à se poser des questions sur la véritable nature de Roanne. Et ça, notamment...
Deuxième épreuve.
On va le voir lors de la deuxième épreuve, en sachant que entre-temps, il y a quand même un point qui est important. Il y a une scène où Godard invite Xénocrate.
Oui,
voilà.
Je l'ai.
Il invite Xénocrate du coup dans la grande maison avec piscine forcément. Mm. Et il y a un passage dans le livre où Xénocrate fait un glanage de masse dans une pizzeria et il épargne une petite fille.
Mm-hmm.
Et bon, très vite on va comprendre que du coup cette petite fille c'est celle de Xénocrate, mm-hmm. la serpe suprême de Midamérique. Or, il y a un des commandements qui dit que
un faucheur n'a pas de famille, il n'a pas d'attache.
Voilà, et du coup, ne devrait pas avoir d'enfant. Donc,
de rejeton.
Tout à fait, donc on comprend que Godard va probablement s'en servir comme ressort pour faire appliquer des choses par rapport à l'ordre des faucheurs. Et effectivement, pendant ce temps-là, elle, Citra, elle a quand même fait des recherches sur la mort de Maître Faraday.
Oui, elle flaire quand même quelque chose. C'est pas normal que Maître Faraday, connu comme il était, soit fait...
Enfin, soit autoglané,
oui.
Quoi.
Enfin, ça lui pose question, quand même.
Voilà. Mais ça, du coup, elle va vraiment s'y interroger plutôt après, parce que du coup, on retrouve Citra et Rowan à la deuxième épreuve, qui est une épreuve de Bocator.
Oui, preuve de force.
Voilà, preuve de force. Et,
un combat.
Alors moi, j'ai bien aimé cette scène aussi.
Ouais.
Parce que, je m'y attendais pas spécialement. Donc, c'est une scène où, effectivement, il doit faire un combat corps à corps. Et, pareil, Rohan... en fait, on sait pas. Du coup, on sait pas si Rohan, il est vraiment maintenant du côté de Godard, s'il
c'est
a
vrai,
pris goût
oui.
à la violence, etc. Parce qu'en plus, Citra, elle le voit, le mec, il est taillé comme pas possible, parce que, forcément, lui, ça fait 6 mois qu'il s'entraîne comme un fou, donc voilà.
Physiquement, il a changé, donc du coup, on se pose la question, est-ce que
Godard n'a pas fait rentrer ses idées, du coup, à l'intérieur
son
de,
esprit,
voilà, de Rohan. Et au final, il va lui briser la nuque à Citra.
Cric.
Voilà. Et je dis,
lapin.
D'accord, ok, le mec est d'accord. Donc bon, bien sûr, pas de panique, puisque Citra va se faire...
Résusciter.
Mais dans tous les cas, l'épreuve est loupée pour les deux, puisque Citra
de
a perdu et Rohan a fait un mouvement interdit au Bocator. Donc... pour l'instant, sur l'échelle des trois épreuves, ils sont à égalité, puisque zéro chacun. Voilà. Et par contre, lui, Rohan, du coup, ça sert quand même un peu sa cause, parce que Godard est hyper fier que...
qu'il ait dégommé...
Voilà, il s'est dit, ouais, c'est bon.
C'est mon champion.
Voilà, mon enseignement porte ses fruits. Après cette partie...
Oui, y a un incident qui se passe qui est assez intéressant, parce que pendant le flou, Citra, donc à moitié morte, mais donc qui rejoint le centre des résurrections, et finalement, ça va être l'un des seuls moments où le Thunderhead va pouvoir lui parler.
Oui.
Parce qu'il n'a pas... du coup, il ne peut pas intervenir dans les affaires des faucheurs. Mais comme elle se trouve dans le centre de résurrection, il y a un petit laps de temps qui lui est permis pour lui communiquer une information. Le fait que Maître Faraday serait encore en vie.
Pas en vie, mais elle lui donne le Thunderhead lui donne le nom du responsable de sa mort.
C'est ça. Dit bon ok de toute façon je te donne un indice, tu serais forcément arrivé à découvrir cette
information. Je te fais gagner un peu de temps et je te le donne.
Voilà. Et donc ça va la mener finalement sur le chemin de la vérité.
Voilà, parce que donc une fois qu'elle se réveille, au final elle fait part parce que il me semble, si je dis pas de bêtises, mais que Citra elle est accusée au final d'avoir tué Maître Faraday.
À un moment donné, oui.
Voilà, et en fait, c'est à ce moment-là en fait qu'elle se jette du haut du bâtiment.
Ah, c'est après.
Elle va se faire arrêter et en fait pour
juste
échapper.
Après.
Voilà. Et donc au final, pour échapper à ça, elle se fout en l'air, clairement.
Elle échappe, oui. Donc on la ressuscite, on l'accuse du meurtre de Maître Faraday.
Ouais, et
à ce moment-là, elle s'échappe.
Dame Curie l'aide à s'échapper parce que en fait, Citra lui confie le nom qu'elle a obtenu. Et Dame Curie lui donne carrément l'adresse de cette personne.
Oui.
Donc là, on se dit, ah ok, c'est bizarre.
Alors,
en plus,
connaît-elle ce nom?
Voilà. Moi, je savais pas au début qui c'était. Enfin, j'avais pas fait le rapprochement. Donc je me suis dit, ah ok, et tout. Très bien. Donc elle sait qui c'est. Et donc au final, Citra va essayer de laver son nom. Et pour échapper en fait à l'ordre des faucheurs qui la poursuit, parce que eux ils sont persuadés, ils veulent lui coller la mort de Maître Faraday sur le dos, elle va se déguiser en tonniste.
Oui, on n'a pas du tout parlé encore de cette catégorie de population, parce que c'est déjà pas le sujet du tome 1, on parle très peu de la société.
Ouais.
Mais effectivement, donc il y a plusieurs catégories de population, la société civile, les faucheurs, et puis dans cette société, on a deux catégories qui se dégagent, les malpropres et les tonistes. Les tonistes sont un peu des sortes de religieux.
Ouais.
Ils sont les seuls, en fait, religieux de...
Bah, c'est des sectes, hein.
Ouais, de cette société-là, puisque si les gouvernements ont été abolis, la religion aussi... Oui. Et donc, ce sont les seuls encore à croire à quelque chose.
Bah, ils croient en la... Bah, on
la
nous dit,
grande résonance.
La grande résonance, tout à fait.
Ils croient au bruit.
Ils sont à fond dans leur truc. Mm. Et du coup, les gens n'aiment pas trop les tonistes,
non.
Au final.
Mm.
Donc, c'est pour ça aussi qu'elle choisit de se déguiser en toniste pour être...
Passer inaperçue.
Voilà,
et...
être tranquille, quoi.
Ouais.
Et de ce côté-là, donc,
enfin, elle va arriver, elle va suivre l'adresse, elle va finalement quitter l'ami d'Amérique.
Oui, elle va aller jusqu'en Amazonie. Mm. Je sais plus si ça s'appelle l'Amazonie.
Si, ouais, c'est la région Amazonie.
Ouais, c'est ça. Et du coup, elle va trouver en fait Maître Faraday
au bord de la playa.
Voilà. Lui, il est bien, il est pépère. Il est en tong. Surtout, il a aucune idée de ce qui s'est passé, parce que lui, il était persuadé que son plan avait marché.
Bah oui.
Donc, Citra le met au courant du fait que malheureusement, sa fausse mort n'a pas du tout fonctionné. Donc là, c'est pareil, le nom qui avait été donné par le Thunderhead à Citra, Dame Curie, en fait, le connaît, puisque on comprend que...
Il s'aimait bien,
voilà, Maître Faraday.
Dans un passé lointain.
Voilà, plusieurs centaines d'années. Donc c'est pour ça qu'elle savait où le trouver, parce que Maître Faraday l'avait mis au courant,
oui.
Au final.
Mm.
Et d'un autre côté, donc on suit toujours Rohan et Godard, qui, en fait, Godard, il a décidé qu'il allait glaner toute une confrérie de tonistes.
Oui. Bah, qui, voilà, pourquoi pas.
Bah oui, parce que les tonistes, vraiment, ils servent à rien.
Voilà, c'est ça.
Ils choisissent...
À Noël, qui plus est.
C'est à Noël.
Ouais.
Ah ouais.
Oui, oui.
Ah
c'est
ouais.
La fin des quotas de l'année.
Ah mais oui, c'est vrai, c'est vrai.
Oh, ça aura peut-être débordé sur ceux de l'année prochaine.
Oui, voilà, parce qu'en fait, il explique... Donc, il y a des quotas annuels, et là, quand il propose d'aller glaner toute une confrérie... Il y a forcément un de ses acolytes qui dit « Ah, mais quand même, et tout, il y a des quotas, machin. » Godard, il dit « Ah, oh, non, mais c'est bon, on prendra un peu sur ceux de l'année prochaine, et tout. » Donc, voilà, vraiment, Godard, il fait fi... Enfin, on va dire qu'il remanie les règles de l'ordre des faucheurs à sa sauce. Et c'est vrai que des fois, tu te dis « Ouais, mais il a pas tort, quoi. »
Des fois, c'est ça aussi la qualité du bouquin, c'est que c'est un vrai méchant. C'est un vrai méchant qui te fait passer, malgré tout, des vrais messages. Tu sais, genre, il pousse les curseurs, les règles. Mm. Les torts, c'est encore ok, mais
c'est
pas
limite.
Trop. Du coup, t'es là, est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on accepte pas.
Ouais, mais c'est exactement ça. Donc, on les retrouve du coup dans cette. Enfin, ils sont dans quoi? C'est une sorte d'abbaye, je crois, un truc comme
oui,
ça.
Oui, oui, oui. Un monastère, oui.
Voilà, et en fait, Godard, il insiste pour que. Bon, il commence à glaner tout le monde, forcément. Mm-hmm. Et Godard insiste pour que Rohan glane le...
Son premier...
Ouais. Sachant qu'il n'est même pas encore ordonné.
Oui, c'est ça. Il veut le faire en avance.
Mais voilà. C'est le cadeau de Noël, vas-y mon gars. Et donc il veut que Rohan glane le... C'est pas le curé, je ne sais plus comment ils appellent ça. Je ne sais plus.
Oui, enfin en tout cas, celui qui est à la tête de cette... Cette communauté de tonistes.
Tout à fait. Donc là, du coup, il y a une scène où on se dit, et c'est pareil dans le livre, c'est très bien fait, on sait pas en fait
il
si
va,
Rohan.
Il va pas.
Voilà, est-ce que Rohan va céder à l'appel du sang et vraiment, voilà, de tuer, ou est-ce qu'il va dire non, mais en fait, je veux pas et tout, rester dans les règles en fait. Et du coup, qu'est-ce que va faire Rohan?
Rohan prend finalement son courage à deux mains, fidèle à ses idéaux, encore une fois. Il va se retourner contre Godard et ses acolytes, plus ou moins aidé par quand même il y en a un qui commence à se poser des questions et qui s'autoglane pendant le massacre.
Ouais.
Et donc finalement, Rowan va prendre le parti. Bah, au lieu de glaner quelqu'un qui n'avait rien demandé à personne, il décide de glaner Godard et ses faucheurs.
Oh voilà, et du coup, il décapite Godard. Et vraiment, ah, la scène était incroyable. Moi, j'ai, ouais, j'ai adoré. Vraiment.
Oui, toi, tu sens, tu t'entends même la tête qui
ouais. Voilà, donc du coup, il tue Godard, qui est vraiment, ouais, un personnage emblématique qu'on adore détester, en
oui,
fait.
Oui, tout à voilà. fait. Et il fout le feu aussi.
Et oui, il met le reste, feu. Voilà. Ouais, tout à fait, parce que le fait de glaner un faucheur, enfin, il aurait été
résurrecté. Il aurait été, voilà, forcément ressuscité, donc il faut ne rien laisser
à résurrecter. Voilà. Ouais, voilà. Donc il décide de mettre le feu en fait au corps, donc de Maître Godard, Dame Rand et Maître Chomsky,
oui,
qui sont les acolytes de Maître Godard, pour justement voilà, enterrer l'âge de la violence de Maître Godard.
Et puis comme ça, ben, comme on lui avait demandé de garder, voilà, de rester devant le monastère et de monter la garde, comme ça, ça lui a permis d'avoir un petit alibi.
Voilà, oh, c'est bah, ça. Écoutez,
moi, on m'a demandé de monter la garde. Il y a
j'ai
eu
rien
un,
vu.
Il y a eu un feu. Pas vu, pas pris.
Voilà, parce que...
Pas de traces.
C'est ça, parce que Xénocrate, en fait... il est persuadé, lui, après, parce qu'il y a une petite enquête.
Oui, forcément.
Du coup, il est persuadé que c'est Rohan, mais en fait, Rohan, du coup, il est devenu... C'est ça aussi qui est intéressant, on voit vraiment qu'entre le début du livre, où il est encore un peu ado, il sait pas trop, que là, il s'est vraiment endurci à fond, il a bien compris, du coup, tous les rouages de l'Ordre des Faucheurs, etc. Et en gros, il renvoie bouler Xénocrate en disant, mais de toute façon, vous pouvez pas le prouver, quoi.
Ouais.
Donc il fait, non, mais moi, juste, j'étais dehors, et ils ont dû foutre le feu à un truc, et voilà, tu vois, moi, j'y suis pour rien. Donc ça, j'ai trouvé que c'était cool.
Et ça arrive juste avant la troisième épreuve.
Ouais.
L'épreuve finale.
Qui va, bah oui, du coup, on va savoir qui de Citra ou de Rohan va devenir faucheur. Et alors, ça consiste en quoi, la dernière épreuve?
Bah, c'est encore assez bien fait dans le bouquin, puisque on nous dit que cette dernière épreuve, personne n'en parle. Les faucheurs n'en parlent pas à leur apprenti. C'est pas quelque chose voilà, qu'on dévoile, donc on peut pas avoir d'indice. Et donc c'est assez bien écrit, puisqu'on est vraiment à la place, on se trouve à la place de Citra quand elle passe l'épreuve. On l'emmène dans un couloir, juste devant une salle, et elle entend un coup de feu. En fait, c'est tout ce que au début, tout ce qu'on peut déduire de l'épreuve, c'est que bah, potentiellement il va se passer quelque chose, mais on sait pas quoi. Et donc elle arrive donc face à un jury de 3 faucheurs. Et donc à ce moment-là, on va lui poser des questions, et puis elle va se retourner, et là elle voit attaché à une chaise son petit frère. Et donc l'épreuve finale, ça va être bah, de mettre fin à la vie d'un être cher.
Là, ta-ta-ta. Bah, du coup, on se demande si elle va le faire ou
voilà.
pas. Donc, au final, en plus, elle le plante avec un couteau. Ce qui est quand même pas le truc le plus. Pour mettre de la distance, bon, il y a mieux, mais du coup, ils peuvent choisir les armes.
Oui.
Donc, voilà,
c'est
du
vrai.
Coup. Bon. Et on comprend, au final, après, on les retrouve tous les deux sur la scène, en fait, du conclave. Pour savoir du coup qui a réussi l'épreuve et qui est ordonné. Donc on comprend que les deux ont réussi.
Oui.
Le coup de feu finalement c'était Rohan. Et lui c'était sa mère.
Sa mère.
Bon voilà, comme il est pas hyper attaché à sa mère, ça a dû être un peu plus facile. Et
il
puis
a
on
pas
se dit...
hésité une seconde.
Non, il est arrivé, il a pris le flingue, il l'a dégoré.
Voilà.
Donc bon voilà, lui on comprend que ça a été, ça a été rapide. Et bah, d'ailleurs c'est ça qui lui porte préjudice, puisque en fait les examinateurs trouvent qu'en fait il a été trop rapide.
Et pas montré assez de compassion.
Pas d'empathie, etc.
Ce qui est assez, du coup, étonnant par rapport à son caractère.
Voilà. Donc là encore, on sait pas trop. Est-ce qu'au final, il est toujours fidèle à ses idées ou pas? Il y a toujours voilà, la graine de doute qui est bien instillée, du coup, dans la lecture. Et donc, la scène de fin, c'est Citra.
Mais oui, qui, elle, donc, est ordonnée faucheuse, qui est choisie par la communauté.
Tout à fait. Donc,
logiquement, elle doit tuer Rohan.
Voilà.
Alors, comment ça se passe?
Et ben là, pareil, scène vraiment très 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 bien pour clôturer du coup le premier livre. Alors, il faut se souvenir que à l'épreuve 2, Rohan a brisé la nuque de Citra pendant le combat du Bokator. Et en fait, là, Citra, elle décide en représailles de lui coller un énorme coup de poing. Et ce faisant, avec sa nouvelle bague de faucheuse, eh bien, elle touche la bouche de Rohan. Et comme de par hasard, ça lui offre l'immunité pour un an. Donc, voilà, il peut pas se faire glaner. Et du coup, le livre se termine là-dessus. Donc, bah, forcément, voilà, l'ordre des faucheurs, ils sont...
Il y a débat.
Ah bah là, il y a débat. Bah non, du coup, il peut pas se faire glaner maintenant qu'il a l'immunité. Citra, elle fait comme si c'était pas fait exprès. Ouais. Après, c'est bien fait parce que du coup, elle dit vraiment « Ouais, bah ça, c'est pour ce que tu m'as fait. » Bon, ça, c'est un peu... Oui, voilà, oui. C'est le spectacle.
On comprend que voilà. C'est pour le spectacle.
C'est ça. Donc du coup, Citra est désormais... Dame Anastasia.
Oui, elle a choisi son nom. C'est son petit frère qui lui a donné, justement. Elle le choisit... Non, elle choisit la couleur de sa robe en fonction...
C'est son petit frère qui lui avait dit.
La conversation, c'est ça, qu'elle a avec son petit frère.
Voilà, donc elle a une robe rouge. C'est pas rouge ?
Lavande, je crois, non ?
Ah, attends. Lavande, c'est... T'as raison. Mm-hmm. Je confonds avec un autre perso. Oui. Mais oui, t'as raison. Donc, robe lavande.
Oui.
Et elle a choisi Dame Anastasia. Oui. Et c'est pareil, en fait, les faucheurs... bah ça on l'a remarqué du coup dans le livre, ils choisissent toujours des noms par rapport à des personnalités, ça peut être scientifiques ou qui ont œuvré pour le bien de la communauté. Et Anastasia qui est Anastasia Romanov, ça leur plaît pas trop, ils sont là bon...
Figure de martyr,
voilà, c'est... Mais bon, finalement elle assume son choix et ça passe et donc elle est intronisée dame Anastasia. Et Rohan, lui,
faire la malheur.
Et il s'enfuit. Et du coup, le premier livre se termine
là-dessus.
Sur ça.
Tout à fait. Donc, d'où la question. La question, toi, quel aurait été ton nom ? Quel nom aurais-tu choisi si t'avais été intronisée faucheuse ? Et quelle couleur de robe ?
Alors, moi, je vais peut-être pas être très originale, mais j'aurais pris... Mais après, c'est un personnage de fiction, c'est pas un personnage... Parce que j'ai pas trop trouvé qui je pourrais prendre. Mais... quoique, j'aurais peut-être pris genre Dame Obama.
Oh,
Dame Obama, parce qu'elle a des super, elle avait des super bottes au meeting, là. Qui était vraiment pas mal. Et puis, même parce que, quand même, première dame des États-Unis noire.
Aussi, mais...
Et
elle a... Et
en couleur de robe, je pense que j'aurais pris bleu et le bas blanc, genre un peu écume.
Ah ok, avec un dégradé.
La vague qui se déplace. Enfin voilà. Ah, toi t'aurais pris quoi ?
Moi j'aurais pris l'héroïne de mon roman préféré, je crois. J'aurais pris Dame d'Alva. Et puis en couleur, je pense que j'aurais pris un vert clair.
Vert clair forêt.
Vert clair forêt sauge.
Et du coup, pour... et la méthode de glanage
La méthode de glanage.
C'est pas évident, hein.
Non, parce que on a tout de suite. On s'est dit, un truc de doux. Un truc pour faire dodo, et puis bye bye.
Ouais, j'avoue, les poisons, au final, c'est pas mal.
Les poisons, c'est ce qui semblait peut-être le plus. Plus facile, entre guillemets. Enfin, pour quelqu'un qui est pas dedans, quoi.
Oui, parce que bon, après, sinon, tu peux sortir la mitraillette, mais c'est pas hyper discret.
Oui.
Enfin bon. Mais en tout cas, pour ce premier livre, il y a vraiment pas mal de sujets que moi, j'ai trouvé hyper intéressants sur l'éthique, la morale, la compassion, le choix des critères de jugement, en fait, pour choisir, pour glaner une personne.
Qui mérite de mourir.
Voilà, c'est ça. Il y a vraiment des questions profondes sur la nature de l'existence, sur le hasard du destin aussi, parce qu'il y a une part de hasard dans le choix des gens qui sont glanés.
Si sur un peu ce qui est capable l'homme, jusqu'où l'humain est capable d'aller aussi pour ses valeurs, pour son métier, pour plein de choses.
Les choix de vie, en fait.
Oui,
choix
de croyance.
C'est ça. Donc voilà, c'est une bonne entrée en matière, j'ai trouvé, pour le premier.
S'il y a des choses que t'as pas aimées ?
Des choses que j'ai pas aimées. Alors, on en a pas trop parlé dans le livre, mais le personnage de Tiger, qui est le meilleur ami de Rohan, j'ai trouvé qu'il était un peu... ça va avec... l'esprit du personnage, mais en gros, c'est vraiment l'ado qu'on a rien à foutre de rien, qui pense que à faire la fête, qui est pas du tout investi dans son avenir et tout. Donc bon, c'est fait aussi pour contraster avec Juan, qui est hyper sérieux, oui. qui s'inquiète de tout, etc. Mais bon, j'ai trouvé que c'était pas le personnage qui était le plus... Enfin, le mieux construit. C'était un peu tombé dans des facilités de, voilà, l'adolescent. Enfin, bon, voilà. Oui. Et toi ?
Moi, bon, j'ai bien aimé hein, le bouquin, comme toi. J'ai trouvé super. J'étais un peu... Bon, ça s'est rattrapé sur les tomes d'après, mais au final, quand on parle de l'organisation de cette société autour de l'intelligence artificielle, etc., genre, il n'y a pas... c'est une société lisse. Il n'y a pas de... de remise en cause, d'opposition, tout le monde semble accepter cette ingérence de la technologie dans sa vie.
Bah, c'est tout parfait.
Et ouais, effectivement, tu dis, oh, ouais, d'accord. Ok, bon, moi, ça me pose 2-3 questions, mais pas vous. Très bien. Mais voilà, c'était la petite subtilité. Mais sinon, je suis quand même contente de l'avoir lu maintenant, ce livre-là. Puisqu'il y a quand même, à l'époque où il est sorti, c'était la lignée un peu des Hunger Games, Divergente, etc. Ouais. Et voilà, cette confrontation adolescence, drame, drama, tuerie, il y en a eu pas mal à cette époque-là. Et je pense que je l'aurais pas autant apprécié...
Oui, quand il est en maintenant.
Oui, parce que c'était trop la hype et que ça m'aurait suffi.
Ouais, je comprends.
Mais oui, voilà. Sinon, effectivement, pareil pour ce que j'ai aimé, la construction du récit, le découpage. J'ai beaucoup aimé le rôle du méchant, un vrai méchant, c'est bien d'en avoir un.
Ah ouais,
la
romance Godard,
maîtrisée.
Ouais. Godard, trop bien. Mais oui, c'est hyper bien écrit, le rythme est bon.
Ouais.
Et les plot twists sont finalement assez intéressants, on s'y attend pas forcément. Et ça, j'ai bien aimé parce que des fois, c'est un peu, voilà, on tombe dans des travers.
Un peu facile, mais là, on s'attend pas à ce qui nous arrive, quoi.
Non, donc, ouais, vraiment, une bonne lecture pour ce premier tome.
Voilà, bonne recommandation de Johanna.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Vous avez fait découvrir ce bouquin. Eh bien, merci d'avoir écouté ce premier épisode du podcast Lectus. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 2, qui va parler du tome 2 de la trilogie toujours de la faucheuse, intitulée Thunderhead.
À la prochaine!
Salut!